Bienvenue à tous. J'aimerais parler sur « Que ton nom soit sanctifié ». Dans Matthieu, chapitre 6 et le verset 9, nous lisons « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi. Nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. » Nous connaissons bien la prière du Notre Père. Nous avons commencé à étudier la première partie qui concerne le Père. À qui s'adresse-t-on quand on prie? On a vu qu'on s'adresse à Dieu comme Père. Mais tout le monde ne peut pas s'adresser à Dieu comme Père, tout le monde ne peut pas faire cette prière, parce que pour que Dieu soit notre Père, il faut que nous devenions enfants de Dieu. Et pour devenir enfant de Dieu, c'est par la foi, par la repentance, demander pardon pour ses péchés, accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Nous avons vu que cette prière commence par trois demandes qui concernent Dieu, dont la première des trois est celle-ci, « Que ton nom soit sanctifié ». La première, donc, concerne le nom de Dieu. Que ton nom soit sanctifié, ça ne signifie pas que nous avons le pouvoir de rendre le nom de Dieu plus saint. Ça signifie simplement qu'il soit mis à part. Qu'il soit mis à part pour être élevé, pour être honoré dans nos vies. Comment est-ce que Dieu s'est révélé à Moïse? Si vous lisez l'Ancien Testament, vous verrez que Dieu a parlé à Moïse alors qu'il était là dans le désert, à garder les troupeaux de son beau-père Jéthro. Ça faisait donc 40 ans qu'il gardait les troupeaux de son beau-père. Et comme chaque matin, comme chaque soir, il allait et il revenait avec les troupeaux de son beau-père pour les nourrir, pour s'en occuper. Mais cette fois-ci était différente. Il est allé donc dans les prés, les herbes et jusqu'à un petit bout de désert. Et dans cet endroit, il y avait un buisson en feu qui ne se consumait point. Et il s'est interrogé en se disant, mais que signifie ce feu qui ne se consume point? Et en s'approchant du buisson, Dieu lui a parlé et s'est révélé à lui. Et lui a donné une mission extraordinaire. Il lui a dit d'aller délivrer le peuple qui était esclave en Égypte. Moïse a 80 ans. Et il dit à Dieu, mais si je vais vers eux et qu'ils me demandent ton nom, que leur répondrai-je? Et c'est là que Dieu va donner son nom à Moïse. Et il va dire, « Je suis celui qui suis. » Et tu leur diras, « Je suis m'a envoyé vers vous. » « Je suis celui qui suis. » En hébreu, en fait, cette expression est un verbe qui est un temps d'action inachevé et continu. J'ai regardé une autre manière de le transcrire la pensée. C'est « Je suis et serai celui qui... » est et qui sera. Vous avez donc un présent continu. Dieu n'achève jamais ce qu'il commence. Il est toujours en train d'exister. C'est un éternel présent. On a cette même pensée dans Apocalypse 1.4, où on voit très bien le rapport de Dieu au temps. Apocalypse 1.4, dans la version Osterwald, c'est celui qui est, qui était et qui sera. Donc Dieu est éternel. Et c'est la traduction du nom de Dieu dans nos Bibles, l'Éternel. Mais en réalité, c'est « Je suis celui qui suis ». Dieu est l'Éternel présent, il est passé, présent, futur, en même temps. C'est en 1905 que Albert Einstein a découvert la relativité du temps. Mais dans la Bible, elle est déjà indiquée, car pour Dieu, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Pour Dieu, il n'y a pas de problème. Dieu existe même au-delà du temps. Et Jésus lui-même fait extraordinaire, s'est approprié le nom de « Je suis », ce qui pour les Juifs était un blasphème. Parce qu'il a dit aux Juifs qui lui posaient des questions, il a dit « Avant qu'Abraham fût, je suis ». Il y a une petite distorsion de la langue, parce que normalement on devrait dire « Avant qu'Abraham fût, j'étais ». C'est juste de dire cela. Mais pour Jésus, il peut se permettre de dire « Avant qu'Abraham fût, je suis ». Il était avant, il était là, et il est encore maintenant, parce que c'est l'éternel présent, parce qu'il a le nom de Dieu en lui. Alors, les Juifs ont voulu le lapider, parce que pour eux, il blasphémait, il se faisait l'égal de Dieu. Mais en réalité, seul Jésus peut prendre le nom de « je suis celui qui suis », parce que l'Éternel, le Père, le Fils, le Saint-Esprit ne font qu'un seul. Alors, on va regarder ces noms. Que ton nom soit sanctifié. Est-ce que vous connaissez les différents noms de Dieu? On va faire un petit peu d'hébreu ce matin. Alors, est-ce que vous avez révisé votre hébreu avant de venir au culte? Attendez, on va les faire dans l'ordre. Yahvé Jiré. Ah, on les voit, les hébraïsants, ils sont prêts. L'Éternel pourvoira. C'est dans Genèse chapitre 14, plutôt chapitre 22, verset 14. Abraham donna à ce lieu le nom de Yahvé Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. On sait dans quel contexte Dieu a donné, plutôt c'est Abraham qui a donné à ce lieu le nom de Yahvé Jiré. C'est un contexte pas facile. Abraham était tranquille. En général, on aime bien être tranquille. Si je vous pose la question, est-ce que vous préférez être dans l'épreuve ou est-ce que vous préférez être tranquille? Qui préfère être dans l'épreuve? Normalement, il n'y a personne. On préfère tous être tranquille. Abraham était tranquille, il avait eu son enfant. Isaac, il était tranquille. Et quand on est tranquille, on aspire à rester tranquille. Mais le texte dit que Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et il y a quelque chose peut-être qui nous dérange dans ce texte, parce que quand même, il avait déjà vécu une épreuve. Ça faisait 25 ans qu'il attendait l'enfant Isaac, maintenant il est né. C'était une longue épreuve, difficile épreuve. Et quand on sort d'une épreuve et qu'on est tranquille, on n'a pas envie de retourner dans une autre épreuve. Mais Dieu en a décidé autrement. Il était tranquille, tout allait bien pour lui, il avait son fils. Mais Dieu lui dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Entre parenthèses, pour Dieu, combien, est-ce que vous savez combien Abraham avait d'enfants à ce moment-là? Et non, il en avait deux. Il y avait Ismaël qui était né, le premier avant Isaac, il y avait Ismaël qui était né. Isaac était adolescent et il a deux enfants. Et qu'est-ce que Dieu lui dit? Prends ton fils, ton unique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour Dieu, c'est l'enfant de la promesse. Et qu'il y a eu une erreur de parcours avec Isaac, mais qu'en réalité, l'unique, celui qui est dans le plan de Dieu, c'est Isaac. Et aux yeux de Dieu, il dit, c'est ton unique. Et il lui dit, offre-le en holocauste sur la montagne que je te montrerai. Ça faisait donc 25 ans qu'il avait attendu pour avoir cet enfant. Maintenant qu'il est né, maintenant qu'il a grandi, qu'il est adolescent, qu'il est jeune homme, Dieu lui dit, offre-le-moi en sacrifice. Alors ça, c'est vraiment difficile à admettre et à comprendre. Comment imaginer que Dieu demande en sacrifice celui-là même qu'il a donné? Et en fait, Abraham va être dans une situation de tension. De tension, une situation désagréable. Et c'est dans cette situation de tension qu'il va encore apprendre des choses sur Dieu. Dieu nous met dans des situations de tension. Il ne va rien dire à sa femme, très certainement que ça aurait été très compliqué à expliquer à sa femme, cette situation. Il a préféré garder ça pour lui, entre lui et Dieu. Il n'a rien dit à ses serviteurs. À ses serviteurs, alors qu'il partait avec ses serviteurs et Isaac, il dit « Nous irons jusque-là pour adorer, puis nous reviendrons. » Mais il sait que lui, il va offrir son fils. Et quelque part, il donne une parole de foi en espérant qu'il reviendra avec son fils. Mais il n'y va pas pour revenir avec son fils. Et puis surtout, il ne dit rien à Isaac. Isaac qui s'interroge et qui, à un moment donné, dit « Père, ben, je vois bien le feu, je vois le couteau, mais où est l'agneau pour l'Holocauste ?» Et là, encore une fois, Abraham a une parole de foi en disant « Mais Dieu se pourvoira lui-même à l'agneau. » Il ne sait pas comment les choses vont tourner, mais il dit ça comme ça. C'est une épreuve. C'est l'épreuve de l'intelligence, l'épreuve de la foi. C'est continuer à avancer dans l'obscurité. Le Nouveau Testament dit qu'il avait même la foi que Dieu allait ressusciter Isaac s'il était mort. Et puis au moment où il lève la main pour offrir son fils en sacrifice, Dieu l'arrête. C'est l'épreuve de la foi jusqu'au dernier moment. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais des fois, Dieu aime bien agir au dernier moment. Quelque part, ça nous stresse. On aimerait mieux savoir, si on était à la place d'Abraham, qu'il y a un bélier là qui attend quelque part, et puis qu'au dernier moment, Dieu va dire stop, et puis tu mets le bélier à la place d'Isaac. On aimerait bien savoir comment les choses vont tourner, en fait. Mais jusqu'au dernier moment, Abraham ne sait pas, et c'est à ce moment-là que Dieu envoie un ange pour lui dire « Arrête, je vois maintenant que tu crains Dieu, prends le bélier qui est là dans le buisson et offre-le à la place de ton fils. » Ça veut dire qu'il a cru jusqu'au bout que Dieu est au contrôle. Et ça, c'est une leçon pour nous, c'est que nous devrons faire confiance à Dieu quand bien même nous sommes dans l'obscurité, quand bien même la parole de Dieu nous semble étrange, incompréhensible, et développer cette foi dans l'obscurité. J'ai dit que Dieu agit parfois au dernier moment, mais j'ai remarqué qu'il y a encore pire, c'est quand Dieu agit après le dernier moment, quand tout espoir est fini, dans le cas de Lazare. C'est encore pire. Lazare est malade, Jésus dit à ses disciples, il fait état de la situation, tout le monde pense qu'il faut y aller, il attend encore 3 jours. Et dans ces 3 jours, Lazare est mort. Et la première femme qui l'accueille, c'est Marthe. Il lui dit, mais si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Autrement dit, c'est trop tard. C'est comme si c'est trop tard, maintenant on ne peut plus rien faire. Et puis un peu plus tard, Marie, copier-coller, si tu avais été ici, elle dit à Jésus, mon frère ne serait pas mort, c'est trop tard. Et pourtant, nous savons que Jésus n'était pas là trop tard, puisqu'il a encore agi après le dernier moment, puisqu'il a prié pour la résurrection de Lazare. Donc Dieu, non seulement, parfois il agit au dernier moment, mais encore il peut agir après le dernier moment, alors que nous pensons qu'il n'y a plus de possibilité. Et lorsque Jésus a levé les yeux vers Dieu, il a dit « Lazare sort », et Lazare est sorti du tombeau, ressuscité par la puissance de Dieu. Il y a donc un miracle qui est encore possible, alors que le dernier moment est déjà passé. Voilà qui est Yahvé Jiré, l'Éternel qui pourvoit, l'Éternel qui est celui qui agit alors que tout espoir semble perdu. Alors un deuxième, peut-être c'est votre cas, si vous êtes dans une situation sans issue, peut-être endetté, avec des factures à régler, sans possibilité, eh bien ce matin nous allons prier Yahvé Jiré, l'Éternel pourvoira. Faisons-lui confiance. Allez, Yahvé Rapha, en français ça veut dire quoi, Yahvé Rapha? Ah, il est bien connu celui-là, Yahvé Rapha, l'Éternel qui guérit. Exode 15, 26, il dit, c'est Dieu qui parle, « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune maladie dont j'ai frappé les Égyptiens, car « Je suis l'Éternel qui te guérit. » Amen. Ça fait combien de si? Je vous laisse calculer. Parce que les si, c'est des conditions. Quelqu'un a trouvé? 4. Si tu écoutes, si tu fais, si tu prêtes l'oreille, si tu observes. On parle souvent de l'amour inconditionnel de Dieu. Dieu nous aime, Dieu est bon. Dieu pourvoit, mais si vous regardez les conditions qu'il y a dans la parole de Dieu, vous allez voir qu'elles sont mentionnées, parce que c'est vrai, on aime bien les promesses. On a même fait un livre, je crois que c'est David Wilkerson qui a édité ce livre, les 365 promesses. Il y en a une pour tous les jours de l'année. On aime bien les promesses. On aime bien les paroles encourageantes. D'ailleurs, en général, dans ce verset, la seule partie qu'on a retenue, c'est « Je suis l'Éternel qui te guérit ». Voilà, c'est la partie, c'est la conclusion, c'est ça qu'on a retenu. Mais en réalité, si on remonte un petit peu en arrière, il y a 4 conditions. Et ça, tout le monde passe par-dessus. Mais pourtant, Dieu nous demande de mettre en pratique sa parole, d'être fidèle à sa parole, d'observer ses commandements, et à nous d'observer ses conditions. Dieu attend de nous que nous mettions notre vie en règle. Oui, il est le divin médecin, mais il a aussi des conditions qu'il nous demande. J'ai remarqué qu'il y a un seul texte dans le Nouveau Testament, c'est dans l'Évangile de Marc au chapitre 8, que Jésus va guérir un aveugle et c'est mentionné qu'il va le guérir en deux temps. C'est dans la ville de Bethsaïda. Il y avait là un aveugle et Jésus le fait sortir de la ville. Il va mettre de la salive sur ses yeux. Il va lui imposer les mains et va lui dire « Maintenant, qu'est-ce que tu vois ?» Et l'aveugle lui dit « Je vois les hommes qui marchent, mais comme des arbres. » Ça veut dire que sa vision n'était pas encore très correcte. Et Jésus, là, ne l'a pas laissé en plan en disant « Bien, va mon ami, tu étais aveugle. Maintenant, tu vois quand même quelque chose, même si tu ne vois pas très clairement. En tout cas, tu vois, tu t'arrives à distinguer. Donc, va avec la grâce de Dieu. » Non, Jésus prie une deuxième fois, il lui impose encore les mains et il lui demande « Mais là, maintenant, qu'est-ce que tu vois ?» Et cet homme dit « Ah, maintenant, je vois tout distinctement. » Et là, le texte dit qu'il fut guéri. Ce que Jésus voulait pour cet homme, c'est donc une entière guérison et non pas une demi-guérison. Pourquoi ? Parce qu'il est Yahvé Rapha. Jésus, c'est aussi l'Éternel qui guérit. Et Jésus n'allez pas laisser cet homme à demi guéri. Alors peut-être c'est le cas pour vous, on a prié pour vous, mais vous êtes toujours malade. Eh bien, on va continuer à prier jusqu'à temps que le Seigneur fasse grâce, jusqu'à temps qu'il y ait l'issue. Peut-être vous êtes dans la souffrance, peut-être vous avez eu un rapport médical négatif. Eh bien, nous allons prier l'Éternel qui guérit, Yahvé Rapha. Quelquefois, on est éprouvé dans le temps. Certains connaissent le témoignage de mon épouse Laurence qui a été atteinte de 3 maladies en 2008. 3 maladies qui se conjuguaient dans son corps et qui la faisaient souffrir de sorte que, au bout d'un moment, elle ne pouvait plus venir à l'église. Elle était couchée, elle avait mal tout le temps, toute la journée et les médecins ne trouvaient pas le problème. Et après certains diagnostics, ils ont trouvé une fibromyalgie sévère, spondylatite ankylosante et maladie de Behçet, une maladie orpheline. Et à ce moment-là, il n'y avait pas de traitement possible pour les 3 maladies. Donc tous les jours, elle prenait de l'opium, de la morphine, tous les jours, pour la soulager. Mais ça ne la guérissait pas. Et petit à petit, ça endommageait les organes du corps. Et à chaque fois qu'on allait voir le médecin, on était découragé. Et ça a duré plusieurs mois ont passé, et on était éprouvés parce qu'on priait et on a fait une expérience assez douloureuse. Parce qu'en fait, plus on priait pour Laurence, plus la situation se dégradait. Ça, c'est très décourageant. Vous priez, alors on avait fait l'onction d'huile, on avait fait une nuit de prière, on avait fait imposition des mains, on a fait toutes les prières qu'on pense. Et plus on priait, plus la situation se dégradait. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais ce n'est pas facile à vivre. Les mois passaient, 1 an passe, 2 ans passent, et là, moi, j'ai commencé à être très découragé. Alors, j'entretenais mon esprit avec la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui m'a permis de ne pas sombrer dans la dépression. Parce que la parole de Dieu, ce sont les promesses de Dieu que j'inscrivais dans mon esprit. Je les méditais tous les jours. Et puis, le miracle est arrivé parce que Dieu a fait grâce. Au bout d'un moment, alors que personne priait particulièrement à ce moment-là pour elle, ça faisait 3 ans qu'elle était dans cet état. Et nous n'avions aucune vision sur l'avenir, nous ne savions pas comment Dieu allait faire. Eh bien, du jour au lendemain, sans l'intervention de personne, Dieu a agi dans son corps et l'a complètement redressé et guéri instantanément. C'est la grâce de Dieu. Il y a un temps de Dieu. En attendant, nous avons prié, même si nos yeux ne voyaient pas d'amélioration, notre cœur, on s'attendait à l'intervention de Dieu. Mais Dieu intervient en son temps, quand il veut, comme il veut. Notre part, c'est de persévérer dans la prière. C'est pourquoi ne vous découragez pas. Les mois peut-être passent, même les années, mais Dieu est souverain et Dieu intervient au bon moment pour faire grâce quand c'est le temps de Dieu. Yahvé, Rapha, l'Éternel qui guérit. Un autre nom de Dieu, c'est Yahvé, alors en français, Yahvé Shalom. L'Éternel, paix. Juges, chapitre 6, verset 24, Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel, paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartient à la famille d'Abiézer. Connais bien ce passage, c'est Gédéon qui était un homme angoissé, qui craignait pour sa vie parce que les ennemis madianites étaient nombreux. Il se cachait dans un pressoir pour battre du froment. Et à ce moment-là, Dieu cherchait un homme pour libérer son peuple. Et il va choisir ce Gédéon pour libérer le peuple de l'oppresseur. Mais le choix de Dieu est étonnant parce que cet homme est très craintif. Et vous allez voir que très probablement, on n'aurait pas choisi une personne pareille. Dieu se révèle à lui sous la forme de l'ange de l'Éternel. Et l'ange de l'Éternel dit à Gédéon, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Et là, Gédéon, si l'Éternel est avec nous, alors il commence à discuter, mais pourquoi tous ces problèmes nous arrivent-ils? Où sont les miracles qu'on a entendus? Nos parents nous ont raconté des miracles, on ne voit rien. L'Éternel nous abandonne. Voilà, qu'est-ce que vous feriez avec un chrétien comme ça? On se dit, mais il faut déjà qu'il se fortifie dans la foi. Déjà, il est un peu faible, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Non, le Seigneur continue, il lui dit, va avec cette force que tu as et tu seras vainqueur. Gédéon continue, ben moi je suis faible, ma famille c'est la plus petite, on n'y arrivera pas. Entre guillemets, il se dévalorise, il dit je suis nul, j'y arriverai pas. Mais Dieu persévère avec lui, je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Et là, Gédéon insiste, il dit ben donne-moi un signe si c'est vraiment toi, donne-moi un signe. Et il y a eu le signe de la toison et c'est seulement après le signe, vous voyez, qu'il s'est mis en route. Dieu persévère avec un homme qui lui résiste. Parce qu'il nous aime, parce qu'il veut notre bonheur, eh bien, il a un plan pour nous, il avait un plan pour Gédéon, et Gédéon a fini par obéir et rentrer dans le plan de Dieu. Mais c'était un homme angoissé. Et en fait, c'est lui qui a trouvé en Dieu sa paix, parce que c'est lui qui a nommé cet autel l'Éternelle paix. Il a offert là un sacrifice à Dieu, en signe de reconnaissance, et il l'a appelé l'Éternelle paix. Lui qui était angoissé, il a trouvé sa paix dans la présence de Dieu. Eh bien, je dirais que c'est vrai pour nous encore aujourd'hui. Si vous êtes angoissé, s'il y a beaucoup de soucis autour de vous, beaucoup de tourments, beaucoup de troubles, eh bien, venez dans la présence de Dieu, il vous communiquera sa paix. Certains chrétiens sont trop chargés des soucis. Ils sont chargés de tous les soucis de la semaine. Ils sont chargés de tous les soucis qu'il y a dans la télévision, sur Internet, dans les médias. Il y a toujours des soucis, des difficultés. Et ils arrivent découragés. Ils sont nourris de soucis. Nourris de difficultés. Ils connaissent toutes les dernières nouvelles, mais les mauvaises nouvelles. Et quand ils arrivent, quand vous les voyez, ils vous découragent par leurs propos parce qu'ils sont nourris de paroles de découragement. Donc, déchargeons-nous de tous nos soucis sur le Seigneur. Lui-même prendra soin de nous. Si vous êtes inquiet, déchargez-vous sur le Seigneur. Vous ne pourrez pas régler tous les problèmes, mais le Seigneur fera grâce, il vous donnera sa paix. Le diable, lui, vous montrera un peu comme à Gédéon, tu n'y arriveras pas, tu es trop faible, il n'y a plus de miracles, Dieu n'agit plus aujourd'hui. Vous voyez, toutes ces paroles-là, c'est les paroles du malin. Mais ce matin, nous allons prier Yahvé Shalom, celui qui donne la paix dans les situations de trouble. Et Jésus a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. C'est la paix de Dieu qui est pour nos cœurs. Yahvé Shalom, que ton nom soit sanctifié, Yahvé Ra'a. Est-ce que vous connaissez la traduction de Yahvé Ra'a? C'est de l'hébreu? Non, ce n'est pas la bannière. Non plus. Je vous donne un indice. Psaume 23. Le berger, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Yahvé Ra'a, l'Éternel est mon berger. Et vous savez qui a écrit le psaume 23? David. Et nous savons que David a eu beaucoup de blessures émotionnelles. Déjà par son père, qui ne l'avait pas invité lors de la réunion où il fallait choisir le futur roi, il fallait oindre le prochain roi, eh bien il n'était pas là parce que son père l'avait laissé avec les troupeaux. Alors que Samuel a dit, je veux voir tous les fils d'Isaïe, tous les fils devaient être là. Ses frères étaient jaloux de lui quand il a été oint, le frère aîné en voulait à David. Ce n'était pas de la faute de David, il avait été oint, mais son frère Eliab était jaloux. Son beau-père, Saül, voulait le tuer. Donc sa famille était vraiment déchirée. Sa femme l'a méprisé quand il dansait devant l'Éternel. Et il y a eu des paroles blessantes. Son fils Absalom s'est retourné contre lui. Joab, son chef des armées, ne se soumettait pas à ses ordres. Il avait notamment tué Absalom, alors que David avait dit, surtout, ne faites pas de mal à Absalom. Il vivait des souffrances émotionnelles, il vivait des blessures. Qui peut réparer un cœur brisé ? David écrit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et un peu plus loin, il restaure mon âme. Qui peut restaurer une âme ? L'Éternel, le berger. Une autre traduction dit, il me rend des forces neuves. Le verset se traduit apaiser, rétablir. C'est peut-être votre cas ce matin, on vous a malmené, on vous a blessé, on s'est moqué de vous. Peut-être même vous avez développé une image négative de vous-même. Vous vous sentez misérable parce que vous êtes dénigré au travail, à la maison, par votre conjoint. Eh bien, aujourd'hui, nous pouvons prier Yahvé, Yahvé Ra'a, l'Éternel, qui est le berger. Et Jésus a dit, je suis le bon berger. Nous avons un bon berger, c'est Jésus. Yahvé Ra'a. Un autre nom, que ton nom soit sanctifié, Yahvé Tsidkenu. C'est la justice, l'Éternel, notre justice, dans Jérémie 23, 6. En son temps, Judas sera sauvé, Israël aura la sécurité dans sa demeure, et voici le nom dont on l'appellera, l'Éternel, notre justice. Là encore, le peuple vivait un drame. Le peuple avait été emmené en captivité dans un pays étranger, très loin d'Israël, et Dieu promet, un jour, vous retournez dans votre pays, et vous pourrez... voici le nom dont on l'appellera, l'Éternel, notre justice. C'est-à-dire que Dieu voit plus loin, il voit le Messie qui arrive, il voit la justice de Dieu manifestée, et le Messie rétablira la justice, il rétablira toutes choses. Alors quelquefois on est victime de fausses accusations, on nous critique, on nous insulte, certains sont jaloux, certains veulent votre place, ils font des pièges, ils veulent vous exclure. Psaume 57, verset 7, « Ils avaient tendu un filet sous mes pas, mon âme se courbait, ils avaient creusé une fosse devant moi, ils y sont tombés. » Parce que Dieu est l'Éternel, notre justice, et il interviendra en notre faveur. Vous le voyez chez Joseph, qui était un homme juste et qui servait chez Potiphar, un Égyptien. Et il servait tellement bien, il y avait une telle grâce de Dieu sur lui que Potiphar lui avait confié toute la responsabilité de sa maison. Donc il gérait les comptes, il gérait les stocks, tout. Potiphar, chez Potiphar. Mais la femme de Potiphar a voulu le séduire et coucher avec Joseph. Et Joseph, là, est resté juste. Il a dit non, je ne ferai pas une chose pareille, c'est contraire à ma foi. Et par rapport à... C'était une femme mariée en plus, et il y avait son mari et tout. Non, il a refusé, il a préféré fuir la situation. Eh bien, du coup, on peut dire qu'il a fait une chose juste, une chose bonne, mais il a vécu l'injustice. Parce que la femme de Potiphar a dit à son mari que Joseph avait tenté de la violer. Elle a menti. Il a fait une chose juste et il a été accusé de choses injustes et mauvaises. Et par injustice, on l'a jeté en prison. Et peut-être c'est votre cas, si vous faites des choses justes, vous ne serez pas toujours récompensé dans le monde. Le monde vous mettra de côté. Vous serez peut-être même parfois en prison à cause de votre justice, à cause de votre crainte de Dieu. Peut-être vous subirez des fausses accusations, peut-être même un procès sera sur vous. Mais nous avons un Dieu qui est tout-puissant, qui s'appelle Yahvé Tsidkenu, que ton nom soit sanctifié. Il est l'Éternel qui justifie au temps convenable. Sixième nom que je trouve dans la parole, c'est Yahvé Shama. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en français, Yahvé Shama? C'est plus dur, hein? C'est pas la bannière, hein? Shama, c'est l'Éternel est ici. Yahvé, Shama, vous le trouvez dans Ézéchiel 48, 35. Circuit 18 000 cannes, et dès ce jour, le nom de la ville sera l'Éternel est ici. Ça, c'est la traduction. Et en hébreu, vous trouverez le nom Yahvé, Shama. Dans le chapitre d'Ézéchiel, du chapitre 40 au chapitre 48, c'est une majestueuse description du temple futur dans le millénium. Et ici, le nom sera « L'Éternel est ici ». Ça veut dire que Dieu viendra habiter au milieu de son peuple pour toujours. Mais Jésus a déjà mentionné cela, parce que nous vivons déjà la présence de Jésus avec nous, quand il a dit à ses disciples, avant de repartir vers son Père, Matthieu 18, 21, « Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux ». Et nous pouvons être certains que le Seigneur est au milieu de nous quand nous nous assemblons en son nom. Yahvé Shama, Jésus est au milieu de nous. Vous avez peut-être été même abandonné, un ami ou un collègue vous a quitté. Paul a vécu l'abandon de Damas dans 2 Timothée 4,16. Dans ma première défense, Paul écrit « Personne ne m'a assisté ». Il exprime un abandon personnel, une souffrance. Mais tous m'ont abandonné. Qu'est-ce qu'il aurait pu dire? Il aurait pu prier « Oh Dieu, viens les consumer dans ta fureur ». Il aurait pu avoir une prière de vengeance. Mais non, il dit que cela ne leur soit point imputé, c'est-à-dire qu'il fait grâce à ceux qui lui ont fait du mal. C'est le Seigneur qui m'a assisté. On peut dire que pour lui, l'Éternel est ici. Il est Yahvé Shama. Le Seigneur m'a assisté alors qu'il est là seul, qu'il est abandonné. Il m'a fortifié afin que la prédication soit accomplie par moi et que tous les païens l'entendent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Nous pouvons prier Yahvé Shama. Quand nous sommes accusés, quand nous sommes malmenés, comme Paul, abandonnés, et peut-être vous avez été maltraité, rejeté, malmené par votre conjoint, il vous a quitté pour une autre. Mais en lisant la parole, vous verrez que vous avez de la valeur, que Dieu a un plan pour vous et qu'il vous aime. Lui ne vous abandonne pas. Il a prévu une meilleure personne pour vous. Psaume 27, verset 10, « Mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. » Quelquefois, il faut que la personne parte. Je discutais avec une jeune à l'issue d'une réunion de jeunesse il y a des années, et elle venait en pleurs pour demander la prière à l'issue de la réunion parce que, en fait, son fiancé l'avait quittée. Et elle était en pleurs, elle était désespérée, elle s'est dit « Ma vie est finie, je vivrai toujours toute seule, je ne m'en sortirai jamais dans la vie, voilà, mon fiancé m'a quittée », elle était désespérée. Et en même temps, je réfléchissais, je me disais « Bon, finalement, elle n'a quand même que 20 ans. Il y a quand même encore un espoir qu'elle trouve encore quelqu'un. » Et j'ai prié pour elle. Et 3 ans après, elle a rencontré la bonne personne. Et en fait, celui avec qui elle était fiancée a quitté les voies du Seigneur. Et la personne avec qui elle s'est mariée, donc elle a rencontré, elle s'est fiancée, elle s'est mariée, il est devenu pasteur et aujourd'hui, elle l'accompagne dans le ministère. Il fallait que la première personne parte. Ce n'était pas le plan de Dieu pour sa vie. Aujourd'hui, elle est mariée, des enfants, ils servent le Seigneur. Le Seigneur est là. Le Seigneur a un plan. Quelquefois, on pense que c'est une perte, mais en réalité, c'est un gain. Si elle s'était accrochée à ce premier, qui était son fiancé, ils avaient le projet de mariage et tout, si elle s'était accrochée, si elle avait tout fait pour se marier avec lui, eh bien, ça aurait été une catastrophe. Il fallait qu'il parte, et c'est Dieu qui l'a écarté de sa vie, et Dieu a fait venir la bonne personne. Si vous êtes abandonné, priez Yahvé Shama, parce que lui, il a son plan. Mais il est ici, il est avec vous, il ne vous abandonnera pas, il vous conduira vers la bonne personne. Je termine avec un dernier nom, Yahvé Tsevaot, l'Éternel des armées, Yahvé Tsevaot. 1 Samuel chapitre 17, verset 45, c'est David qui dit aux Philistins, donc c'est Goliath, dans ce fameux face-à-face entre David et le géant Goliath, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. » Yahvé Tsevaot, il est là. « L'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. » On voit la foi de David. David ne recule pas alors que le combat est puissant. Lorsqu'il arrive sur le champ de bataille avec les fromages et les pains de son père pour donner aux soldats, son frère le traite d'orgueilleux, lui dit « Mais c'est pour voir le combat que tu es venu. Je connais la malice de ton cœur. » En fait, Eliab ne voyait pas la malice qui était dans son propre cœur, il voyait la malice chez David. Lorsque David dit « Mais qui est ce Philistin pour oser insulter l'armée de Dieu ? Moi, j'irai me battre avec lui. » On conduit David devant le roi. Et Saül lui dit « Mais tu n'es qu'un enfant. Tu n'es qu'un enfant. Lui, c'est un homme de guerre. Au moins, prends mon armure. » Et il le revêt de sa cuirasse. C'était dans l'idée de le protéger. Et lorsque David fait quelques pas, il n'est pas à l'aise avec la cuirasse de Saül. Elle est trop lourde. Et là, il a la bonne attitude. Et c'est là où, frères et sœurs, il ne faut pas toujours écouter les conseils de certaines personnes. Parce que Saül, c'était quand même le roi. Entre guillemets, c'était loin de l'Éternel. C'est-à-dire la personne que Dieu avait choisie pour gouverner le pays. Et ce roi lui donne un mauvais conseil. « Prends mon armure. » David a préféré écouter la voix du Saint-Esprit. « Dépose cette armure. Va chercher 5 cailloux. Quelle voix allez-vous écouter ? Est-ce que vous écoutez la voix d'un homme ou est-ce que vous écoutez la voix du Saint-Esprit ? Il ne fallait pas se tromper à ce moment-là. Si David n'avait pas écouté la voix du Saint-Esprit, il serait allé avec une cuirasse qui n'était pas appropriée. On ne sait pas comment les choses se seraient passées. Il a dit non. Ça paraissait insensé. Le roi dit, mais au moins ça va te protéger. Non, non, c'est la sagesse des hommes. Et lui, il est allé prier au torrent, il a pris ses 5 cailloux. Et sa force, en fait, n'était même pas dans les cailloux. Sa force était dans la foi. Si vous avez la foi, vous allez avec la force de Dieu. Et dans le combat spirituel, on est comme David. Humainement, on n'a pas de force. On n'a que les 5 cailloux. Les cailloux, ce sont nos prières. Mais il y a un autre paramètre que David met tout de suite en avant. Vous voyez, il ne dit pas, moi je viens, tu vas voir avec ma fronde, je vais fracasser ta tête, ça va être facile. Non. Il met en avant le nom de l'Éternel. Tout de suite, il met en avant le nom de l'Éternel, l'Éternel des armées. Voilà avec qui je viens, moi. Et c'est comme ça que David va remporter le combat. Et frères et sœurs, si vous êtes dans un combat spirituel aujourd'hui, vous remporterez la victoire non pas par vos armes ou par vos forces, mais parce que l'Éternel des armées combat pour vous. Il est avec vous. Il est en vous. Le diable vous trompera. Il rôde autour de vous comme un lion rugissant. Il cherche à vous dévorer. Mais comme David, nous allons élever le nom de l'Éternel. L'Éternel des armées combat pour nous. Vous subissez peut-être des attaques. On va prier Yahvé Tsevaot. Les noms de Dieu, vous voyez, sont riches en enseignements. On pourrait beaucoup, beaucoup développer tous ces noms. Mais retenez ceci, c'est que ton nom soit sanctifié, ça représente tous ces noms. Que si vous êtes dans la difficulté, vous avez besoin du secours de Dieu, bien Dieu pourvoit. Il est l'Éternel qui pourvoit. Il est celui qui guérit si vous êtes malade. Il est celui qui vous donnera la paix si vous êtes angoissé. Il est celui qui est votre berger, qui va restaurer votre âme si votre âme est endommagée. Il est celui qui vous fera justice si vous êtes accusé devant les tribunaux. Il est votre justice. Il est ici avec vous alors que toutes les portes semblent fermées. Il est ici, Yahvé Shammah. Il est l'Éternel des armées, Yahvé Tsevaot, qui combat pour vous. Il n'y a pas de situation trop difficile pour Dieu. Même s'il semble qu'il n'y a pas d'espoir, Jésus crée un espoir nouveau. Merci Seigneur pour ta parole. Nous croyons qu'elle est la parole de Dieu. Et qu'en toi, il y a tous ces noms. Et nous voulons élever ton nom encore, que ton nom soit sanctifié. Nous nous attendons à toi, à ton action bénie, parce que tu es le Dieu de victoire, parce que tu es le Dieu de gloire. Et c'est dans le nom de Jésus que nous prions et nous te rendons toute la gloire. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni.